Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir Yvan Rioufol, journaliste, éditorialiste au Figaro et essayiste. Il a débuté sa carrière de journaliste en province, à Nantes,
oui,
avant de rejoindre le Figaro en 1985. Il a été notamment rédacteur en chef du service Société. Depuis 2002, il est titulaire du bloc-notes qui paraît le vendredi. Il a écrit quelques ouvrages, notamment « La République des faux gentils » au Rocher, « La fracture identitaire » chez Fayard, « À la recherche du peuple perdu » aux éditions de Passy. Il participe également à des débats sur RTL, On refait le monde, où vous êtes largement plébiscité. Il n'y a qu'à écouter tous les soirs. Enfin, tous les soirs, toutes les semaines. Sur LCI, Télé et France 5. Il tient également un blog au Figaro. Est-ce que vous pouvez donner l'indication de... J'ai regardé le Figaro blog, le Figaro...
blog.lefigaro.fr /Rioufol.
Voilà,
je crois que c'est ça.
Mais donc, enfin, vous pouvez aller consulter.
Tout de suite, ça arrive.
C'est
liberté d'expression.
Allez sur le Figaro, il y a des indications pour le blog. Alors, il vient de faire paraître l'ouvrage pour lequel nous sommes là, De l'urgence d'être réactionnaire, publié aux presses universitaires de France dans la collection Perspective critique. Je salue également tous nos auditeurs qui nous rejoignent sur le site de mola.com où vous pouvez vous-même écouter, réécouter cette conférence. Nous allons avancer dans votre ouvrage au fur et à mesure. Yvan Rioufol, vous nous invitez à réfléchir à une pensée de Montesquieu. La servitude commence toujours par le sommeil et vous pensez qu'il est plus que temps de se réveiller. Alors, vous allez d'abord nous donner la définition de ce qu'est aujourd'hui un réactionnaire. Vous parlez de néo-réactionnaire et pourquoi il aide son temps et pourquoi le réactionnaire du 21e siècle est le progressiste de demain.
La définition, je l'ai trouvée dans mon Larousse, tout simplement, dans mon Larousse, un vieux Larousse de 1923. En fait, la définition est toujours exacte, elle n'a pas changé, en tout cas pour ce qui m'intéresse, il n'y en a qu'une, c'est « est réactionnaire celui qui prête son concours à une réaction politique ». C'est-à-dire qu'on est très loin de la définition du réactionnaire à la Joseph de Maistre en disant « celui est réactionnaire celui qui a la nostalgie de l'Ancien Régime ou celui qui veut absolument retourner en arrière et qui refuse la modernité ». Non, est réactionnaire, et ça m'intéresse davantage, c'est pour ça que j'ai repris ce terme-là, est réactionnaire celui qui réagit, dans le fond, celui qui est réactif. J'y ajoute, pour compléter, deux autres définitions qui me semblent aller davantage également avec, en tout cas, ce que je suis et ce que je pressens être de l'opinion des Français. Est réactionnaire celui qui n'adhère pas au conformisme du temps, au conformisme du discours politique, et réactionnaire également celui qui ne se résout pas, dans le fond, à accepter ce déclin dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce déclin des ce que j'appelle les 30 calamiteuses. Il y a eu les 30 glorieuses, et là, nous vivons la fin des 30 miteuses, des 30 calamiteuses, si on les fait débuter à peu près à 1981, ou même un petit peu avant. Donc, le réactionnaire d'aujourd'hui, tel que je le veux le réhabiliter, dans le fond... Alors, il y a naturellement une provocation derrière ce titre, bien sûr aussi,
bien sûr.
Puisque le réactionnaire, c'était le qualificatif que l'on m'offre depuis maintenant un certain temps. Mais je le reprends pour moi, je l'accepte, et je soutiens aujourd'hui que le progressiste du 21e siècle sera ce néo-réac, parce que le réactionnaire est un réactionnaire de progrès, et que le conservatisme aujourd'hui, c'est-à-dire ça se vérifie dans les discours notamment de la gauche aujourd'hui, de la gauche progressiste, le conservatiste aujourd'hui est précisément dans cette gauche qui était auparavant progressiste et qui aujourd'hui se raccroche, elle, à un passé qui ne passe plus, à un passé qui tombe en faillite. Voilà. Donc c'est naturellement un livre polémique, mais comme vous l'aurez compris.
Bon, et vous dites que le réactionnaire aujourd'hui est un démocrate déçu et révolté.
Oui, le réactionnaire peut être... C'est un livre qui s'adresse à la fois à des lecteurs de gauche ou de droite. Il s'adresse d'abord à des lecteurs de gauche, dans la mesure où le réactionnaire d'aujourd'hui se rend compte que la gauche a renoncé à défendre les valeurs essentielles qui ont fait la France et qui avaient été portées par la gauche au XIXe siècle, à savoir la défense de la démocratie, de la liberté d'expression, de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État, de l'égalité entre l'homme et la femme. Et ces fondamentaux ont été abandonnés, je soutiens qu'ils ont été abandonnés par la gauche, et donc j'invite les néo-réactionnaires à reprendre ces valeurs-là, qui sont des valeurs qui sont les nôtres, qui ont fondé notre démocratie, et ils s'adressent également à la droite, dans la mesure où le néo-réactionnaire tel que je le définis refuse également le relativisme, tout cet état d'esprit qui aimerait nous faire croire que tout se vaut, qu'il n'y a plus de hiérarchie, que tout peut être mélangé, qu'une civilisation en vaut une autre, un peuple en vaut un autre, une culture en vaut une autre, et également, ce réactionnaire-là réhabilite également les fondamentaux de la société, le mérite, la famille, enfin tout ce qui structure notre civilisation. Donc c'est un livre qui s'adresse, me semble-t-il, à ces deux lectorats, et je suis d'ailleurs publié dans une au PUF qui est plutôt une maison de gauche dans le fond. Enfin... Et d'ailleurs, je suis invité vendredi prochain à participer à une conférence du Nouvel Observateur pour parler de cela. Donc je pense que la gauche reconnaît aussi, c'est pas du tout un livre militant de quelqu'un de droite. Je suis de droite, j'abats les cartes tout de suite, je l'avoue, mais je passe au-delà de mon cas personnel et de mes idées politiques, qui sont d'ailleurs pas très arrêtées, mais pour vraiment essayer de me mettre à l'écoute, ce que j'ai voulu faire, c'est me mettre à l'écoute de la société civile, de ces Français qui ne se sentent plus représentés, de cette société dite des invisibles, cette France oubliée, cette France des indignés. Je trouve que le mot indigné, autant le livre est assez banal, le livre de SL est assez banal, autant son titre est formidable. Je trouve que le terme d'indigné convient bien, mais ne s'arrête pas simplement à ceux qui se réclament de l'extrême gauche. Il se réclame, je trouve qu'il correspond assez bien à toute cette frange de la société qui, les statistiques le montrent, ne se reconnaissent plus dans les partis politiques. Vous n'avez que 7% des Français qui font confiance en partis politiques aujourd'hui. 80% des Français ne font plus confiance dans leurs hommes politiques. 40% des Français rejettent le système politique tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que le parti majoritaire aujourd'hui, c'est le parti des oubliés, c'est le parti des invisibles. Et c'est effectivement à cette frange de la population que je m'adresse. J'essaye d'en être son porte-parole. J'essaie de comprendre quelle est sa souffrance, quelles sont ses exigences. Et je résume sa capacité de réaction par ce terme-là, en suggérant que cette France, toute cette France-là, naturellement, n'est pas réactionnaire. Il y en a qui sont plus apathiques que d'autres, mais qu'il y a un noyau dur de réaction qui refuse de disparaître, qui refuse de se plier aux dictats du conformisme ambiant, médiatique notamment, et que c'est que les politiques auraient tout intérêt à se mettre à l'écoute de cette France-là qui est loin d'être déprimée, même si
Donc
on présente...
Pour vous, comme vous l'écrivez, pour lui, l'heure est venue.
L'heure est venue parce qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Je pense que si rien n'est fait aujourd'hui pour essayer de changer la trajectoire, une trajectoire qui pour l'instant nous mène dans le mur, si rien n'est fait, dans quelques années, il sera trop tard pour repartir en arrière. Donc... voilà, je pense que c'est aujourd'hui même, et l'élection en est un bon exemple, aujourd'hui même, ou dans les 5 ans à venir, qu'il va falloir que l'on décide, dans le fond, que le peuple décide quel est le destin qu'il choisit. Parce que le grand paradoxe de tout cela, c'est que si ce peuple ne se sent plus représenté, si ce peuple se sent exclu du discours politique, c'est qu'il a été exclu du discours politique, naturellement. Il a été évincé. Ce n'est pas simplement un populisme tel qu'on le présente dans les médias et chez les hommes politiques qui voudraient que ce soit un peuple qui ne s'intéresse qu'à son confort. Non, c'est un peuple qui... Nous vivons une crise de la démocratie. Les peuples, une partie de la France ne se sent plus représentée. Et donc il va falloir aujourd'hui que de redonner la parole à ces Français en leur demandant notamment, en leur redonnant prise sur leur destin. Donc, parce que dans le fond, les grandes options, et notamment l'option sur laquelle j'insiste beaucoup, parce qu'elle ne rentre pas dans les discours politiques pour l'instant, cette grande option qui a été prise de faire de la France une société multiculturelle qui chamboule tous nos fondamentaux assimilationnistes, intégrationnistes, excusez-moi, c'est pas beau, sans avoir eu à demander aux Français ce qu'ils en pensaient, eh bien, il faut que les Français aujourd'hui reprennent la main sur leur destin et essaye de faire dévier cette trajectoire du multiculturalisme qui, si elle va au bout de sa logique, va vers l'éclatement, la balkanisation, la libanisation et tout ce qui s'ensuit en termes de guerre civile potentielle.
D'ailleurs, si vous voyez, tous les candidats à la présidentielle parlent du peuple. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Il y a un grand paradoxe, c'est-à-dire que tous les candidats à la présidentielle ont commencé par se boucher le nez devant le mot populisme. Ça a commencé comme ça. Parce que et puis aujourd'hui, effectivement, alors je ne sais pas s'ils ont lu le livre ou pas, mais ils se rendent compte effectivement qu'il y a une boussole. Si la France n'a plus d'intellectuels pour les guider, il y a encore une boussole qui est au cœur de la société française. Moi, je préfère parler de société civile plutôt que de populisme, parce que le populisme, c'est un terme élastique, on peut y mettre un peu n'importe quoi, mais je soutiens que la société civile d'aujourd'hui est devenue le cinquième pouvoir. Vous avez le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, médiatique, et le cinquième pouvoir aujourd'hui, c'est cette société civile qui est appuyée en plus par une force de frappe considérable, qui fait sa force et qui est irrépressible, qui est l'Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si le discours officiel a tenu à l'écart cette France oubliée s'impose aujourd'hui grâce à l'Internet et arrive à contourner les discours médiatiques notamment et à imposer sa vision, ou en tout cas à faire comprendre quelle est sa vision. Ce qui explique, de mon point de vue, que les hommes politiques aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup, à peu près tous aujourd'hui, disent qu'il faut aller à la rencontre du peuple, il serait temps, effectivement, et maintenant, il va falloir que s'ils vont à la rencontre du peuple, il faut vraiment qu'ils acceptent de l'écouter. Ça, c'est une autre affaire.
D'ailleurs, vous dites qu'on a imposé une pensée officielle soviétoïde. Je trouvais ça assez...
Oui, c'est-à-dire que, en fait, nous vivons depuis 40 ans... C'est une banalité que de le dire aujourd'hui, mais sous l'éteignoir d'un politiquement correct, c'est-à-dire que nous n'avons plus... Le drame d'aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation équivalente à celle de 1788, si vous voulez, à la veille d'une grande révolution, puisque nous arrivons à la fin d'un monde, puisque tout s'écroule. Toutes les idéologies s'écroulent, bousculées par les réalités. Nous sommes à la fin d'un monde où il faut tout inventer. Or, nous n'avons plus d'intellectuels. La pensée officielle a arasé complètement l'esprit critique, la curiosité intellectuelle, et nous n'avons plus les Montesquieu, les Voltaire, les Rousseau qui pourraient nous donner une perspective pour essayer de voir où nous pouvons aller. Donc nous en sommes là. À toutes les crises que nous avons à subir, il y en a une supplémentaire. D'ailleurs, j'ai fait mon bloc-notes de ce matin là-dessus, qui est cette crise de l'intelligence qui nous oblige à constater qu'il n'y a pas un seul intellectuel aujourd'hui qui ose. Qui a osé précédemment, parce qu'à cause précisément de cette pensée soviétoïde, qui a osé précédemment casser les dogmes et essayer de voir que... Pourtant, Dieu sait si c'était visible, puisque même moi, observateur, je le dis depuis longtemps, mais malheureusement, nous ne sommes pas nombreux à le voir et à être écoutés, que cette société est une société fictive et que le grand tsunami des réalités est en train de tout balayer. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation... où les hommes politiques sont désemparés, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Regardez cette polémique sur le halal, on y reviendra peut-être, mais très significative d'un affolement. Et donc, ils sont obligés, et c'est en fait la bonne nouvelle, ils sont obligés, en se mettant à l'écoute de cette société civile qui est le meilleur expert, dans le fond, de ce qu'elle vit, ses difficultés tous les jours, cette société civile qui peut au moins ramener dans le débat un peu de pragmatisme et l'élémentaire bon sens qui a été oublié depuis 30 ans.
Oui, et y a des évangiles qui se déclinent, qu'une addition des cultures conduit mathématiquement à une addition, vous dites, de richesse. Qui n'est pas démontré.
Ça, c'était le discours officiel. Et c'est vrai qu'on a pu être, moi aussi, au début, par inadvertance, j'ai été pris par ce discours officiel qui était de dire que le multiculturalisme, qui était supposé multiplier les cultures, allait donc donner des cultures enrichissantes à tout le monde. Or, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse. C'est l'inverse partout. C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis, qui est quand même le pays qui a été construit sur le multiculturalisme, qui montrent que le multiculturalisme, au contraire, affadit les cultures, rétrécit les cultures et retranche les cultures en communauté et ne donne comme culture commune qu'un le plus petit dénominateur commun, c'est le football ou la télévision ou le divertissement, enfin, et plutôt que de multiplier que le multiculturalisme, plutôt que de multiplier les cultures, au contraire, il les éradique, il déculture précisément. Et là, nous sommes dans ce grand phénomène qui a été très bien décrit par un auteur pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Renaud Camus, qui était d'ailleurs à Paris hier soir, j'ai écouté une de ses conférences, sur cette grande déculturation qui empêche, qui nous donne, qui précisément lobotomise un peu les esprits et permet précisément ensuite d'accepter le reste qui vient, si ça vient.
Est-ce que vous êtes vraiment persuadé qu'il y a une vraie rupture entre les hommes politiques, leurs représentants et les citoyens ? Aujourd'hui ?
Ah oui.
En fait, les Français s'intéressent à la politique, mais comme vous disiez, ne croient plus à leurs hommes politiques.
C'est ça. Il y a une crise de confiance, c'est-à-dire que les Français, effectivement, ne n'aiment plus leur politique, mais se passionnent pour la politique. La politique. C'est-à-dire et ils ont raison, c'est-à-dire qu'ils veulent reprendre main sur leur destin, mais la crise de confiance est très réelle. Elle se lit, j'ai donné quelques chiffres tout à l'heure, elle se lit dans cette fracture civique, elle se lit dans les abstentions qui se sont multipliées ces dernières élections.
Mais 7% des sondés.
7%, oui, c'est oui, ça. C'est
dites, ce que 7% des sondés font confiance au parti, 83% estiment que leurs élus ne se préoccupent pas d'eux.
Ça, c'est des statistiques qui sont recoupées à chaque fois. Et donc, il y a aujourd'hui deux Frances. Vous avez la France officielle, la France du discours officiel, et puis la France du pays réel, pour reprendre tel que ça avait été dit. Mais pourquoi pas reprendre la France du pays réel ? C'est-à-dire que vous avez le discours public n'est pas le discours publié. C'était Michel Maffesoli qui avait dit ça. C'est une très belle formule. C'est-à-dire que le discours publié, le discours des médias ou des hommes politiques, ne correspond pas au discours public de la société civile. C'est deux mondes différents. C'est-à-dire qu'ils ne se comprennent pas. Ils ne voient pas les mêmes choses. Ils ne vivent pas les mêmes choses. Ils ne parlent pas le même langage. Et il y a donc une grande incompréhension de la part de cette France. Alors, il y a une France qui les comprend, évidemment, mais une grande compréhension de la part de cette France qui attend autre chose d'un discours politique que des slogans et qui, surtout, leur exige des hommes politiques aujourd'hui qu'ils descendent de leur balcon et qu'ils aillent voir comment vivent les gens, qu'ils mesurent la souffrance des gens. Il y a une authentique souffrance des gens, pas seulement une souffrance économique. Il y a une souffrance économique, naturellement, incroyable. Mais il y a aussi une souffrance identitaire de ces gens qui, en certains points de la société, ne reconnaissent plus leur
vous dites
leur quartier,
d'ailleurs, les classes moyennes se sentent déconsidérées.
Les classes moyennes sont priées d'aller voir ailleurs. Et donc il y a une souffrance existentielle d'un certain nombre de Français, les souchiens, on les avait appelés les souchiens, les Français de souche, par rapport à une nouvelle communauté de franciens qui fait comprendre, avec l'appui d'un discours différentialiste, que l'avenir aujourd'hui est à cette France de la diversité et que la France des Français de souche, j'ai horreur de ce mot-là, mais enfin, la France des Français de souche est appelée à dégager. Dégage. Dégage, c'était le mot d'ordre qui avait été donné, je crois, par les révolutions maghrébines vis-à-vis de leurs représentants. La société civile, aujourd'hui, dit aussi à leurs représentants, dégage. Précisément parce qu'elle ne veut pas dégager.
Parlez-moi un peu de la faillite de l'école républicaine. Parce que vous l'abordez deux fois au début de votre livre et à la fin où vous dites tout est à jeter.
C'est-à-dire que la faillite de l'école, c'est pas le point sur lequel je m'arrête le plus parce que ça a été dit 20 fois et donc je ne suis pas moi professeur et je n'ai pas tous les éléments. Mais enfin, la faillite de l'école républicaine, elle se voit par les résultats. Là, il faut juger l'arbre à ses fruits. Et cette déculturation, cet illettrisme, est le fruit précisément d'une école qui ne sait plus quoi transmettre. Le drame de l'école d'aujourd'hui, c'est qu'elle est prise précisément dans ce manque de réflexion sur les missions de l'école. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu un penseur, un intellectuel, qui a pu dire, ne serait-ce que pour l'école, qui est quand même l'élément fondamental pour transmettre une culture, quelle était la culture que devait transmettre l'école. Et vous avez des intellectuels qui se posent la question ouvertement, François Dubay, je crois, en est de cela, oui. Qui se disent quelle culture doit aujourd'hui transmettre l'école publique, l'école française. Alors si on en est là de ces interrogations, si on en est là d'avoir à improviser sur ce qui est le cœur d'une société, puisque une société se transmet d'abord par sa mémoire, par son histoire, par sa culture, par ses fondamentaux communs, eh bien, vous arrivez à cette société éclatée qui se voit, qui se lit, bien sûr, qui est épouvantable, qui est un vrai drame qui arrive. Tout commence par l'école, naturellement.
Les chiffres sont terribles. Il y a quand même 250 000 adolescents qui n'ont rien appris.
Qui n'ont rien appris.
3 millions d'illettrés qui ne maîtrisent pas 500 mots.
Voilà, oui. Bon, mais ça, c'est des constats qui ont été faits par d'autres mieux que moi. Mais je les rappelle naturellement pour alerter sur le manque de réflexion criminelle, dans le fond, qui a fait qu'aujourd'hui, on laisse cette école en jachère et qu'il y a maintenant des écoles pour les élites, des écoles, et puis des écoles pour ceux des cités qui sont assignés, dans le fond, à leurs conditions et qui n'arriveront jamais à accéder à la culture française. Puisque, en plus, par une sorte de bon sentiment imbécile et de non-discrimination, a décidé que cette nouvelle France de la diversité n'était pas apte à s'adapter à la culture occidentale, à nos fondamentaux humanistes, et qu'elle était donc. Ne pas avoir à apprendre la culture française, les fondamentaux de l'histoire, de la littérature.
Oui, on y reviendra.
Et que les concours ont été abaissés pour que, précisément, ils ne soient pas discriminants.
Parlez-nous un peu des professionnels, de ce que vous appelez les professionnels de l'angélisme, en accord avec le cynisme d'un patronat français.
Alors, c'était quoi, ça?
C'était tout simplement en disant que le patronat français a profité d'une situation de l'apport d'une politique de population qu'on pouvait payer pas cher.
C'est-à-dire qu'il y a une conjonction, une connivence tout à fait extraordinaire entre le discours universaliste de la gauche sans frontiériste. Qui veut que chacun, qu'il n'y ait plus de différence dans le fond entre quiconque et que l'étranger soit partout chez lui. Encore d'ailleurs avant-hier, Nicolas Sarkozy s'est fait reprendre lors de mardi dernier par une journaliste qui l'interviewait parce qu'il a fait la différence entre Français et étrangers. Et donc ça a choqué cette consoeur qu'on fasse une différence entre Français et étrangers. On est vraiment dans une idéologie complètement pervertie. Et donc il y a cette idéologie-là qui dit qu'il n'y a pas de différence entre Français et étrangers, que donc tous les étrangers peuvent venir en France. Et puis vous avez en même temps cette autre idéologie beaucoup plus pragmatique et mercantile du patronat qui veut faire venir, lui, une main-d'œuvre à bon marché, dans une sorte de grand marché aux esclaves, et qui, par le travail au noir, etc., alimente aussi cet argument, cette immigration économique, cette immigration de sans-papiers, qui est appelée ensuite par les voies des voies légales et par des faiblesses aussi politiques à rester en France, quitte à ne pas s'y assimiler. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons maintenant la grave crise de l'intégration qui commence à être prise en compte par les hommes politiques, mais simplement dans le diagnostic, mais non pas en allant jusqu'à ses racines.
Aujourd'hui, enfin, des philosophes, vous nous dites que le silence, vous l'avez dit tout à l'heure, que les philosophes sont prostrés dans une sorte de silence. Mais ce qu'on constate, c'est que le débat est aussi sous l'œil de la justice.
Oui.
On ne peut plus rien dire.
On ne peut plus rien dire. Enfin, la pensée soviétoïde, c'est ça. C'était d'abord ça. C'était d'abord... Il y a ce politiquement correct... Il y a deux choses. Il y a ce politiquement correct qui est une idéologie qui était admissible, dans le fond, au tout début, qui était héritée des États-Unis, qui aurait pu être compréhensible dans la mesure où il était demandé, dans une démocratie ouverte, que l'on applique une civilité élémentaire envers chacun. La civilité n'étant plus non plus enseignée à l'école, qu'il y ait des règles de bienséance pour faire que chacun se respecte. C'était ça, le politiquement correct, et c'était tout à fait respectable. Sauf que c'est devenu, aujourd'hui, une idéologie qui a été mise au service des minorités sexuelles, des minorités ethniques, des minorités religieuses, En leur faisant croire à la prétention de pouvoir imposer leur loi dans une démocratie qui par définition, n'accepte que la loi de la majorité. Et donc, on a cette inversion de valeur où, aujourd'hui, vous avez une sorte de tyrannie des minorités à travers ce politiquement correct qui interdit que l'on fasse la moindre critique, sinon des critiques positives, la moindre critique à des comportements minoritaires. Et si, de craindre d'être taxé de racisme et de discrimination. Et donc, cela a déjà réduit la possibilité d'avoir à contester, enfin, à décrire les choses. Mon confrère Zemmour a été poursuivi pour cela, pour avoir dit des banalités, dans le fond dérangeantes, mais des banalités sur les délinquants. Donc vous avez ce politiquement correct qui empêche les médias de faire leur travail, enfin qui, sur les, ou en tout cas auquel, pour le, sur le, devant lequel les médias n'ont pas su réagir. Et puis vous avez cette formidable armada de lois authentiquement liberticides qui aujourd'hui sanctionne pénalement non plus un acte comme c'était comme jusqu'à présent les fondements du droit nous l'avaient appris, un acte qui aurait causé un préjudice, il y avait un lien de causalité entre l'acte et le préjudice, mais qui sanctionne une idée, qui sanctionne une opinion. Et là, vous avez des lois, les lois Lelouch, les lois Pleven, toutes les lois mémorielles, qui aujourd'hui sanctionnent des opinions. Et donc, on est là dans une déviance tout à fait insupportable dans une démocratie. Et je suis de ceux qui plaident naturellement pour l'abolition de toutes ces lois qui ne servent à rien, sauf à créer des sortes de martyrs d'authentiques salauds comme les négationnistes qui, effectivement, maintenant se présentent comme étant des victimes d'un système, alors que si on les laissait dire leur fantasme, ils pourraient aussi bien se couvrir de honte publiquement plutôt que de enfin voilà, je trouve que ce système de loi liberticide est totalement aberrant et devrait être supprimé.
Alors, à un moment donné, vous dites des nouvelles cultures récemment venues et refusant de s'assimiler effacent progressivement à certains lieux de certaines banlieues. Et vous relevez en disant ce n'est pas la multiethnicité qui est le problème, c'est-à-dire l'inévitable brassage des couleurs, c'est le multiculturalisme.
Oui, on revient un petit peu à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que, oui, je ne plaide pas du tout, on a bien compris que nous étions une société aujourd'hui ouverte à tout le monde, que chacun était libre d'y venir, pouvait y venir, qu'il soit blanc, jaune, peu importe, la couleur n'a pas d'importance. Mais ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas ce multiethnisme-là, mais ce qui importe aujourd'hui, c'est que ceux qui veulent bien rejoindre l'Europe et la France, en l'occurrence, acceptent toutes les règles, les règles du pays hôte. C'est une considération élémentaire. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui, précisément à cause de ce politiquement correct, de cette loi, cette tyrannie des minorités notamment, que les minorités qui arrivent viennent avec la prétention d'imposer leur propre comportement, leurs propres règles, et parfois même aujourd'hui la prétention de dire aux pays qui les ont accueillis de dégager. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez eu un rapport du think tank, comme ils disent, du Parti socialiste Terra Nova, qui a publié un document il n'y a pas si longtemps, enfin c'était l'année dernière, qui constatait que l'électorat ouvrier blanc, les petits blancs, était aujourd'hui acquis à la droite, voire à l'extrême droite, et qu'il fallait aujourd'hui, pour le Parti socialiste, s'intéresser exclusivement à la France des cités et à la culture musulmane et à la citoyenneté musulmane. Et le Terra Nova concluait en disant qu'il fallait aujourd'hui que la culture musulmane, que la citoyenneté musulmane prennent sa place au cœur même d'une société pourtant laïque. Et donc, on avait cette aberration qui était de la part du think tank, d'un think tank du Parti socialiste. Le Parti socialiste s'est vaguement désolidarisé, mais il y a encore une grande ambiguïté, d'un choix qui a été fait de privilégier une France par rapport à une autre, Et donc, ce sentiment d'abandon des Français n'est pas simplement une paranoïa, c'est vraiment quelque chose de très réel qui se passe tous les jours pour ceux qui vivent en plus dans des quartiers où les phénomènes de substitution de population ne font que s'aggraver. C'est un phénomène qui a été décrit par une démographe qui s'appelle Michel Tribala, qui a montré, depuis maintenant quelques années, qu'en certains lieux du pays, notamment en Seine-Saint-Denis, ces phénomènes de substitution de population, c'est-à-dire de population qui quitte les lieux sous la pression culturelle de nouveaux venus, était un phénomène qui risquait de se retrouver dans d'autres, qui risquait de s'aggraver, de se multiplier, si on ne prenait pas en considération cette immigration de peuplement qui est un sujet inabordable.
D'ailleurs, Terra Nova dit que l'intérêt général du pays est d'accompagner cette récente mutation en faisant émerger une puissante citoyenneté musulmane.
Voilà. Voilà. Et donc, je vous laisse juger après tout.
Tendre pour vos collègues. Alors, le journalisme lessiveuse. Le panurgisme prévaut dans la caste docile qui a ses gourous.
Oui, parce que moi j'adore ma profession, mais c'est vrai que j'ai toujours été abasourdi par la lâcheté, le suivisme de ma corporation, et notamment dans cette manière qu'elle a eue d'accepter justement d'être toutes ces laisses, toutes ces ficelles qu'on lui a mises aux chevilles pour qu'elle n'avance plus. Et je trouve que la presse ne participe plus à son devoir élémentaire qui est de se mettre à l'écoute des gens, de décrire la vie des gens. Et vous avez toute une... S'il y a la crise de confiance qui existe entre la société et les politiques, qui est exactement la même crise qui s'observe entre la société et les journaux. C'est-à-dire que les élites médiatiques, politiques, ne veulent pas prendre en considération ce que disent les Français. Et la presse en est là, avec cette authentique pensée unique qui fait que vous avez souvent l'impression de lire dans un journal, même de droite, exactement le même papier que ce que vous pourriez lire dans un journal de gauche. Et l'illustration en a été donnée l'année dernière, où, parce que nous sommes quelques-uns à penser à contre-courant et à être réfractaires et à commencer à se faire entendre des télévisions, des radios qui jusqu'à présent ne nous invitaient pas. Moi, je ne suis connu, j'écris ça depuis maintenant 15 ans, mais je ne suis connu que depuis 3 ans à peu près. Et l'année dernière, il y a eu ce phénomène qui est apparu, dit des néo-réacs, et où toute la presse a commencé à donner la liste des noms des journalistes néo-réacs qui commençaient à subvertir, si je puis dire, la pensée officielle. Il faut savoir que nous sommes 37 000 cartes de presse. Et la presse n'avait donné la liste que de 5 noms de néo-réacs, pour vous dire qu'on n'est vraiment pas bien dangereux. Il y avait là Elisabeth Lévy, Robert Ménard, Brunet, j'en oublie.
Finkielkraut.
Finkielkraut, oui. Enfin bon, oui. Voilà. Enfin, bon,
vous.
Oui, moi,
l'autre jour, j'ai reçu ici Frédéric Martel. Vous avez eu droit à un article dans son bouquin. Le sarkozysme culturel. Il paraît, vous y avez eu droit.
Il paraît, j'ai pas lu. Ouais. Mais donc voilà, il faut que la presse aussi se rende compte qu'elle n'est pas à la hauteur de sa mission et que si elle veut, en tout cas, garder ses lecteurs, elle est obligée elle aussi. En plus, c'était vraiment l'élémentaire, le béaba pour un journaliste que d'ouvrir les yeux. Elle est obligée d'ouvrir les yeux, d'autant que le phénomène qui apparaît, dont je vous parlais, de l'Internet, qui commence à contourner également les médias, l'oblige à réagir. Parce que vous avez sur l'Internet aujourd'hui, et ce matin encore, avant de venir, j'étais interviewé par une petite association qui avait sa caméra, qui venait pour m'interviewer, qui va mettre ça sur l'Internet, etc. Donc vous avez l'Internet fait du journalisme, dans le fond, fait de l'investigation, qui concurrence l'investigation. Alors, c'est pas très bon, sans doute, mais n'empêche que ça casse le monopole de la parole, ça casse ce conformisme médiatique, et ça oblige les médias à suivre cette France qui ne parle pas comme elle. Et je donne d'ailleurs l'exemple du Noctilien. Le Noctilien, c'était il y a 2 ou 3 ans, un jeune étudiant de Sciences Po qui s'était fait casser la figure dans un bus de nuit parisien, un Noctilien, par une par trois jeunes gens dits de la diversité. Et cette scène, qu'il avait traité de sale blanc, etc. Et cette scène avait été filmée par la petite caméra et a été mise en ligne par un agent de la RATP sur l'Internet. Et le soir même, ça avait fait un buzz, comme on dit, extraordinaire. Et le soir même, TF1 avait dû reprendre elle-même cette scène sous la pression de ce buzz, donc c'était intéressant, pour le mettre dans son journal du soir, de 20h. Ça a été pour moi, la, je crois que c'est la première fois qu'une grande chaîne de télévision se fait influencer par précisément cette, ces médias, ces nouveaux médias. La suite de cette histoire est aussi amusante, c'est-à-dire que l'étudiant de Sciences Po s'est empressé de disculper ses agresseurs en disant qu'ils étaient simplement le fruit d'une crise sociale et que ce n'était pas de leur faute. Et c'est l'agent de la RATP qui a été sanctionné par la justice.
Qui a été sanctionné. Vous avez un chapitre qui est intitulé « La France, souvenir encombrant ». On peut peut-être l'aborder, en train de dire que le matraquage dont vous parlez, sur le passé d'esclavagistes, colonisateurs et collaborateurs.
Oui, mais ça fait partie de la même histoire, c'est-à-dire que l'on veut dégoûter les Français de leur propre histoire, on veut les dégoûter de ce qu'ils sont, on veut les culpabiliser afin qu'ils renient 1500 ans d'histoire. Et donc, on ne fait que soutenir une histoire qui est rose et qui est noire, naturellement. Et on ne veut en retenir que le noir, en oubliant que les histoires parallèles de ceux qui les accusent. C'est-à-dire qu'on rappelle, par exemple, que la France a été esclavagiste, sans rappeler d'ailleurs qu'elle a aboli l'esclavage, et sans rappeler surtout que les pays musulmans sont encore, à l'heure où l'on parle, esclavagistes pour certains d'entre eux, notamment, enfin bon, je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres, et donc toute cette culpabilisation systématique qui est acceptée par la France, qui est acceptée par notre culture, parce que notre culture a toujours été une culture d'introspection, d'autocritique, on fait ça depuis Montaigne, Montaigne a beaucoup fait ce genre d'autocritique-là, donc pour nous c'est une posture intellectuelle qui nous est familière, sauf qu'elle est prise aujourd'hui comme étant un signe de faiblesse et un signe de culpabilité par ceux qui, précisément, exigent de nous le respect sans qu'eux-mêmes nous respectent.
De toute façon, au point de vue de l'histoire, les réductions des cours d'histoire et des heures d'histoire sont manifestes.
Ah ben, oui, donc, alors bon, c'est, de toute façon, j'en fais aussi un chapitre, ça devient, c'est également délirant. Oui, on fait apprendre. On ne fait plus apprendre Louis XIV, mais on fait apprendre le royaume du Monopatapa, je ne sais plus, enfin le royaume africain, enfin bon, je n'ai plus son nom en tête, mais ça va être très intéressant. Mais enfin, c'est peut-être plus intéressant de faire apprendre Louis XIV que le Monopatapa, ou je ne sais plus quoi, pardon, j'écorche.
Il y a une chose que j'ai découverte, c'est l'histoire des paris américains sur le changement d'identité de la France.
Mais ça fait
alors
partie...
ça, je l'ignorais complètement.
Mais ça fait partie de ce même phénomène, de ce grand pari qui est fait par un certain nombre d'observateurs de dire qu'aujourd'hui la France française est appelée à disparaître et qu'elle vit ses derniers instants, ses dernières années, et que la France de la diversité va la suppléer. Et l'ambassade des États-Unis a fait des... On a appris ça à travers le scandale de ces mails qui avaient été dévoilés, là, pardon, j'ai plus le nom en tête, où la presse a publié les dépêches d'agence de l'ambassade américaine à Paris, demandant à ce que la priorité soit donnée à l'émergence des jeunes talents des cités. Alors, on peut comprendre qu'il faille émerger les jeunes talents des cités, ce n'est pas du tout le problème. Mais en l'occurrence, ce n'était que là, et les termes employés par l'ambassade des États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis était parfaitement désagréable vis-à-vis de la France traditionnelle, la présentant comme étant une France évidemment raciste, anti-minorité, etc. Et que les talents d'aujourd'hui, les talents de demain, ne serait auprès de cette nouvelle France. Problème, pourquoi pas, sauf que une partie de cette nouvelle France est une France qui, et c'est ça le plus fondamental, est une France qui rejette, pour une partie d'entre elles, ce que sont les fondamentaux de notre culture. Et ce problème est aussi inabordable, et d'ailleurs devrait être abordé lors de ce débat politique.
Bon, on ne va pas revenir sur l'histoire de l'école dont on a parlé, victime d'un Alzheimer. Terminé. Alors, je vais vous dire l'histoire de la viande halal qui a passionné les médias dernièrement. Alors, Monsieur Rioufol relève, par exemple, la morale républicaine du maire de Strasbourg, qui dit, alors, écoutez bien, « Nous servons de la viande halal par respect pour la diversité, mais pas de poisson par respect pour la laïcité. »
Alors, comme vous dites, la boucle est bouclée.
J'ai déjà entendu beaucoup de choses. Bien. Alors, vous nous parlez d'une construction de la contre-société. Alors, expliquez-moi ce que vous appelez la contre-société.
Ben, ça revient à tout cela, c'est-à-dire que ce que je décris, parce que le livre est divisé en deux, il y a cette description exact. Un peu pénible, j'en conviens, parce qu'il y a beaucoup de... ça devient un peu négatif à la fin, mais mon livre est optimiste. Mais là, vous passez en revue...
Il y a de l'optimisme,
Vous passez en revue le diagnostic, et le diagnostic, il est celui-ci, effectivement, d'une contre-société, c'est-à-dire d'une... j'avais écrit un livre précédemment qui s'appelait « La fracture identitaire » en 2007, qui pointait ce séparatisme qui maintenant est reconnu... entre la France des Français et la France des Franciens, etc. Et cette contre-société, eh bien, c'est cette société qui apparaît, qui ne se reconnaît plus dans les règles de la République, qui ne se reconnaît plus dans les règles de la laïcité, ça a été dit notamment par le député de Vénissieux, André Gerin, et qui, en certains territoires...
Député communiste.
Et qui, en certains territoires, de là où elle se trouve, en majorité, applique aujourd'hui la charia. Et donc, c'est-à-dire la loi islamique, c'est-à-dire une conception de la société qui est en totale contradiction avec l'ensemble des règles de la démocratie. La charia, c'est-à-dire la loi de Dieu, c'est-à-dire les préceptes prédominants d'Allah. Il faudra qu'on m'explique en quoi ils peuvent être compatibles avec une loi de la démocratie qui est précisément... De donner la priorité au peuple et non pas à toute autre autorité. Donc on est dans cette contradiction qui est flagrante. Et le plus grand scandale, dans le fond, d'aujourd'hui, c'est que ces faits-là, ces phénomènes très graves, beaucoup plus graves que la crise économique, ces phénomènes qui nous crèvent les yeux, restent des phénomènes inabordables dans le débat public. Et dès que vous osez l'aborder, moi je l'aborde... sans doute trop à mon goût, mais je l'aborde parce que personne ne veut l'aborder, donc il faut bien que quelqu'un fasse le boulot, si je puis dire. Dès que vous abordez ça, vous êtes considéré, on vous regarde avec des yeux ronds en vous demandant si vous n'avez pas pris de l'opium. Et vous êtes la caricature du salaud. Et donc, on vit là le plus grand des dénis qui est un véritable scandale intellectuel et que je ne cesserai de dénoncer jusqu'au moment où les gens accepteront de voir ce qui se passe sous leurs yeux, car ce qui se passe là se passe sous leurs yeux. Et ce qui est bizarre, c'est que ces phénomènes sont décrits ponctuellement par certains. Gilles Kepel vient de faire un livre pour le décrire.
En 93,
sur l'islamisation, etc. Mais ça ne lance aucun débat, ou en tout cas, les gens ont l'air de ne pas vouloir creuser ces sujets-là. Et l'on continue, je vois ça dans
oui,
les...
Oui, vous dites même qu'on veut le taire. 14% des musulmans français se considèrent d'abord comme français, contre 22% qui se considèrent d'abord comme musulmans.
Voilà. Mais alors, je participe maintenant à beaucoup de débats, et quand vous abordez ces sujets, on vous dit d'abord, que l'immigration et l'islam ne sont pas des problèmes pour les Français, que ça n'apparaît pas dans les statistiques, que les Français trouvent qu'il n'y a pas... que l'immigration se passe bien, que l'intégration se passe bien. Que de deux, on vous dit de toute façon que l'immigration n'est pas considérable, que trois, que l'intégration se porte bien, et que quatre, en fait, que vous vivez dans le fantasme permanent et que vous attisez la peur des autres. C'est cette grande expression maintenant qui est commune à tous les discours et qui vous fait comprendre que vous n'avez plus qu'à vous taire. Et donc, on est là encore dans ce terrorisme intellectuel qui, pour moi, devient absolument insupportable, d'autant que c'est, encore une fois, cette crise-là, cette crise du communautarisme, cette disparition programmée, si rien n'est tenté, si rien n'est fait, de ce que nous sommes... et donc qui est avalisé aujourd'hui par Terra Nova, par l'ambassade des États-Unis et par d'autres qui nous regardent en ricanant, eh bien, si on ne peut pas réagir à cela, naturellement, nous sommes perdus. Mais je suis persuadé, du contraire, je suis persuadé que les gens, les Français, ont parfaitement compris cette menace-là. Et simplement, c'est à eux aujourd'hui de se faire entendre auprès de tous les hommes politiques, c'est-à-dire pas simplement d'aller vers l'abstention ou de voter pour le Front National, mais de faire comprendre à l'UMP, au Parti Socialiste, que c'est leur devoir aujourd'hui que de s'attacher à ces problèmes, car moi je ne suis pas du tout un radical ni un extrémiste, je voudrais que ces problèmes soient vraiment des problèmes débattus dans la démocratie, qu'ils soient canalisés au contraire, qu'ils ne soient pas laissés à des mouvements extrémistes.
Oui, donc je voudrais quand même... Enfin, il y a quand même des déclarations assez étonnantes. L'islam est à la fois une religion et un État. Le Coran est notre constitution, a déclaré le président de l'UOIF.
Oui. Et le Coran est notre constitution, ça a été déclin. C'est Tamim Rez, je crois, qui
et il y a encore d'autres déclarations plus violentes encore.
Qui représente la communauté musulmane en France. Et ça, c'est une déclaration qui... C'est un précepte qui a été édicté par, je l'ai appris après, par les frères musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est vraiment une idéologie qui est insufflée et qui dit bien ce que cela veut dire. C'est-à-dire que quand on vous dit le Coran est notre constitution, ça veut dire que nous ne vivons pas dans le même monde, nous ne vivons pas chez vous avec les mêmes règles. Et voilà, est-ce acceptable ou pas?
Je voudrais quand même aussi préciser que vous dites bien que vous ne roulez pas pour Madame Le Pen.
Pardon ?
Vous ne roulez pas pour Madame
Le
Pen.
Non, c'est ce que je dis. Non, parce que j'entends toujours.
Vous abordez toujours, d'ailleurs ce problème.
Oui, parce que c'est le reproche qui m'est fait à chaque fois. Bien sûr. Que vous parlez de ces sujets-là, on vous traite en tout cas naturellement d'extrémiste, bien sûr. Et non, en l'occurrence, non, je ne suis pas. Je ne vote pas. Ce n'est pas ma famille de pensée. Je suis un libéral, un conservateur, un libéral. Mais en même temps, si je ne vote pas Madame Le Pen, je ne voterai pas pour des. Je pourrais m'abstenir. Je commence à me poser la question si vraiment tous ces problèmes dont je parle, ces problèmes fondamentaux, qui ne sont pas simplement, donc je me répète, pas simplement la crise économique, mais la crise du vivre ensemble, de la cohésion nationale.
C'est ça, surtout.
Cette crise-là, si on ne prend pas en considération cette crise, qui pour moi est beaucoup plus importante que toutes les autres, si on ne les prend pas en considération, alors ce sera effectivement désespérant. Et donc, il faudra créer un autre parti. Je le suggère à un moment dans mon livre, mais enfin, pour l'instant, ce n'est que littéraire.
Oui, et vous dites qu'il serait stupide de laisser les FN s'imposer comme le seul porte-voix de ces indignés.
Mais naturellement, bien sûr. Vous avez 40% de... Les indignés sont, je l'ai dit en préalable, se représentent aujourd'hui, selon moi, le premier parti de France. Ils sont à peu près 40%, c'est-à-dire de ceux qui
alors justement,
plus.
Une place reste à prendre.
C'est pas 40% qui vont au Front National.
Alors, une place reste à prendre. Donc, c'est là-dessus où vous dites qu'il y a quelque chose à faire.
Il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire qu'il faut naturellement canaliser cette énergie, il faut la faire remonter à la surface. Alors là, du coup, j'ai pas de solution. C'est un appel que je lance, mais il faut canaliser cette énergie-là.
Qu'elle existe.
L'appel que je lance, d'abord, c'est un livre qui est fait pour alimenter la campagne présidentielle. Donc l'appel que je lance, c'est de dire aux grands partis de se saisir tout de suite de ces sujets-là. Alors, commence-t-il à le faire? J'ai entendu que Nicolas Sarkozy, cette semaine, a dit qu'il y avait trop d'immigrés en France. C'était ça, sa phrase, un truc très brutal qu'on n'entendait pas jusqu'à présent et qui, d'ailleurs, n'a pas fait sortir de ses gonds le Parti socialiste. Donc, on voit bien que ça commence à... On commence à se réveiller. Mais enfin, ce n'est pas suffisant. Il faut approfondir ce sujet de l'immigration, comme il faut approfondir ce sujet de l'islam, où là, on parle, on biaise, on essaie de tourner autour du pot à travers cette question du halal qui n'est incompréhensible en elle-même. C'est vrai qu'on ne voit pas, on peut très bien comprendre qu'il y ait du halal pour les uns, etc. Mais derrière le halal, on voit bien qu'il y a... On parle toujours par euphémisme dans ces cas-là. Derrière le halal, il y a cette question précisément que l'on n'ose pas aborder du communautarisme islamique qui est derrière aussi. Et donc plutôt que de tourner autour du pot, pourquoi ne pas tout de suite se pencher sur ces deux grandes questions que sont l'immigration de peuplement et le communautarisme islamique, qui sont les grands sujets abandonnés, qui sont au cœur de toutes les préoccupations des Français. Dès que je parle avec des Français, ils ne parlent que de cela. Il n'y a que les sondeurs qui me répondent à chaque fois. Quand je débat avec Roland Kayrol, à chaque fois, il me ressort ça en disant que ça n'apparaît pas dans les sondages. Mais enfin, on se fiche de qui enfin, on sait, c'est, Et donc il faut que mon message est de dire qu'il faut que les partis politiques s'empressent de s'emparer de ces sujets, ne serait-ce que pour faire comprendre aux Français qu'ils ont compris quelle était la souffrance de ces Français-là, et puis surtout pour y apporter des solutions. Il y a des solutions à apporter à l'immigration de peuplement. Il faudrait la réduire beaucoup plus drastiquement que de 50%, comme l'a dit Nicolas Sarkozy. Il faut au moins de 80%.
De 100 000 maintenant.
100 000 arrivées par an, c'est encore énorme. Enfin, c'est encore énorme, de mon point de vue. Et face à l'islam radical, il faut accepter aujourd'hui l'épreuve de force, c'est-à-dire il faut accepter que la République reste une République ouverte, naturellement, bien sûr, mais soit intransigeante sur le respect de ses fondamentaux. Quand j'entends Fillon dire que la laïcité doit s'adapter, je saute sur mon siège, c'est pas à la laïcité de s'adapter, c'est pas possible, c'est aux nouveaux arrivants de s'adapter à la laïcité. Or, vous avez au cœur même de la République, au sommet de l'État, vous avez des gens qui sont prêts à faire des concessions, des accommodements raisonnables, et qui sont prêts à reculer dans cette épreuve de force qui, pour l'instant, est à notre désavantage.
Quand il ne s'agit pas de le passer sous silence. D'ailleurs, vous dites, à des moments donnés, les gens sont aveugles, et vous nous donnez, par exemple, comme exemple, la chute de Constantinople. Racontez-nous cette histoire, parce que c'est quand même c'est intéressant.
Ça y ressemble beaucoup. Hein. C'est-à-dire que à la veille de, enfin, dans les années précédant la chute de Constantinople, donc de l'empire de la civilisation byzantine, chrétienne byzantine, on avait à peu près les mêmes phénomènes d'ouverture aux autres. C'est-à-dire que les empereurs de l'époque avaient accepté de faire construire des mosquées au cœur de Byzance, avaient accepté même que la dernière avait été construite juste quelques temps avant. Et on avait même autorisé les musulmans à se donner leur propre loi. Il y a un terme qui m'échappe, que je donne.
Oui, soient soumis au jugement d'un cadi.
Les jugements des cadis. Et en fait, les chrétiens ne passaient leur temps qu'à se tirer dans les pattes eux-mêmes pour des questions de querelles, de sexe des gens. Je ne sais pas si c'était ça exactement, mais enfin, ils partaient dans des accessoires et dans des questions accessoires sans voir.
Oui, d'ailleurs, ils disaient on préfère le turban turc
au papiste. La suite est connue, c'est-à-dire que la ville s'est fait encercler et est tombée après une rude bataille, mais est tombée définitivement pour ensuite de voir cette civilisation extraordinaire totalement disparaître. Et donc nous vivons un peu, le parallèle est évidemment tentant, de voir qu'il y avait cette même insouciance, ces mêmes querelles intestines, cette même ouverture un peu angélique aux autres, sans se préoccuper de sa propre autodéfense, avec en plus une indifférence à l'époque de ce qui était l'Occident, qui à l'époque c'était la guerre de Cent Ans, et la France et l'Angleterre n'avaient pas vu ce danger et n'avaient pas été à la rescousse de Byzance pour défendre cette civilisation chrétienne. Et donc, Byzance est tombée.
Bien, alors vous terminez votre ouvrage parce que c'est l'heure, on va avancer et ensuite on aura toute la séance des questions et des réponses. Et vous dites que finalement, en France, les néo-réactionnaires pourraient devenir le socle à une union nationale.
Bon, ben oui, c'est-à-dire que comme je le disais en préalable, le néo-réactionnaire d'aujourd'hui n'est pas étiqueté politiquement. Il peut être à gauche, il peut être à droite, il peut être au centre. C'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui veut sauver sa culture, son pays, sa patrie, qui veut se sauver lui-même, dans le fond, qui veut garder son mode de vie. Et donc, cet impératif de survie, elle est transcourant, elle est transpartie, elle nous concerne tous. Et donc, j'imagine qu'il faudrait que si les partis n'arrivent pas, tel que je l'espère malgré tout, mais il ne reste que 15 jours, hein, 3 semaines, n'arrivent pas à canaliser cette forte demande, il faudra imaginer de la création d'un nouveau parti. Alors là, pour l'instant, c'est un peu fumeux, je l'avoue, mais,
Mais il y a évidemment la place, ne serait-ce que d'un point de vue marketing, on voit bien qu'il y a une demande extrême et qu'il n'y a pas d'offre là-dessus. Donc,
il n'y a pas d'offre actuelle.
Pour l'instant, il n'y a pas d'offre. Ben, vous avez des offres diverses. Je parlais de Renaud Camus qui était le parti de l'innocence, un parti un peu farfelu, qui voulait justement répondre à ces exigences-là, mais qui n'a pas récolté trois parrainages et donc qui a abandonné naturellement. Et je pense qu'il y a la place pour un parti qui représente ce fort courant, alors on dit populiste, allons-y pour populiste, moi ce terme ne me fait pas peur, mais ce fort courant de la société civile qui, tant que la démocratie représentative ne reprendra pas ses fondamentaux qui sont de représenter les gens dans leur diversité et leurs exigences, pour l'instant, qui défaille, et donc trouver des partis à la Tea Party. Mais les Tea Party sont aux États-Unis, oui, sont un peu partis de là, c'est-à-dire que c'est la société civile qui constatant la défaillance des grands partis traditionnels, avec une accentuation du côté très religieux et très droitier qui est commune aux États-Unis, qui a lancé ces partis qui influent encore dans le débat politique. Donc ça pourrait être ça, je ne sais pas encore. Là, la suite est à écrire.
Bien, est-ce que vous voulez encore conclure ?
Conclure, non, c'est un livre malgré tout optimiste. Voilà, j'ai voulu quand même faire comprendre qu'il fallait réagir, qu'il fallait se battre, qu'il fallait vraiment surtout
non,
pas.
Non, vous indiquez quand même là où il faut se battre et d'éviter d'avaler le discours convenu.
Voilà. Voilà, il faut apprendre à dire non en tout, et je pense qu'il y a beaucoup de gens sont prêts à dire non en tout. Et il faut qu'aujourd'hui cette posture, j'allais dire, soit reprise par les hommes politiques eux-mêmes qui cessent ces politiques d'accommodement, cet esprit munichois qui gagne tout le monde et qui fait qu'aujourd'hui nous vivons des drames futurs. C'est André Gerin, encore le député communiste, qui dit qu'à Vénissieux, il y habite, hein, en plus, on y vit sur une poudrière et que des guerres civiles sont possibles. Des guerres civiles sont possibles. Bon, voilà, on est prévenu.
Ben, on a déjà vu ce qui se passait en Grande-Bretagne.
Voilà. Et on a déjà vu ce qui se passait aussi en France en 2005. C'était un peu les répétitions générales de ce qui ressemblait quand même beaucoup, peut-être pas à des guerres civiles, mais en tout cas à des affrontements urbains. Et déjà un peu à des guerres civiles dans la mesure où les forces de l'ordre sont considérées comme étant en territoire étranger quand elles pénètrent dans des cités. Donc ça pose aussi là un problème. Enfin bon, c'est encore un autre débat.
Merci beaucoup.